Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI, Radio Foot International, première édition, puisqu'aujourd'hui Ligue des Champions, on se retrouvera aussi en fin de soirée. En tout cas, pour ce qui est de maintenant, nous évoquerons Lyon au défi du Shakhtar Donetsk. Et du grand froid, il neige autour du stade de Kiev pour un match de la plus haute importance pour les espoirs lyonnais se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé au club de Jean-Michel Aulas depuis 2012. L'OL a son destin en main, mais avec l'OL, il faut avoir le cœur bien accroché. Les Parisiens, premiers de leur groupe, qualifiés pour le printemps de la Ligue des Champions. Hier soir, le PSG a atteint le prochain tour de la compétition européenne en s'imposant à Belgrade avec la manière face à l'étoile rouge, grâce notamment à un Neymar des grands soirs, une fois encore. L'équipe propriété du Qatar aurait-elle enfin franchi un cap en cette fin de phase de groupe? C'est ce qu'on se demandera dans Radio Foot. Enfin, Naples et l'Inter Milan à la trappe. Les deux clubs italiens avaient pourtant eux aussi leur carte en main hier soir. Mais si la mission semblait compliquée pour les hommes de Carlo Ancelotti, elle semblait à la portée des Milanais. Le coup est rude pour le foot italien, c'est ce que nous expliquera Matteo Cioffi. Pour parler du PSG, évidemment, un Parisien. Membre du journal Le Parisien, Dominique Sévrac, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Radio Foot, Étienne Moiti de l'équipe, bonjour.
Bonjour.
Vous faites de la concurrence au Parisien, vous aussi.
Hein. Bon, je pense qu'on est au-dessus, mais enfin, bon, Dominique pense le contraire.
J'aime bien être en dessous.
Salim Bongali de RMC Sport, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous, moi je les regarde.
Ouais, vous faites l'arbitre.
Hein. C'est ça.
Des fois c'est pratique. Eric Mamrud, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Ah, nous, on les regarde. Voilà. On les regarde.
Lui, il est tellement ailleurs. Eric, il est tellement au-dessus.
Hors concours.
Ouais. Radio Foot, c'est parti.
J'aime bien ce genre de match. Je pense qu'il y a une sorte de feeling qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu arrives à gagner ce genre de match, c'est la plus belle des victoires.
Le moment pour Bertrand Traoré et les Lyonnais de sortir leurs griffes, des griffes bien acérées, car cette équipe nous a habitués à des hauts et des bas. Ce soir, l'OL jouera donc en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. Elle jouera sa qualification en huitième de finale. Un nul pourrait suffire, mais gagner comme hier pour le Paris Saint-Germain, eh bien, ça serait plus simple. Ça propulserait Lyon au prochain tour. Il y reste une 16e place en huitième de finale. Elle leur tend les bras aux Lyonnais, même si le Shakhtar a son mot à dire, puisque en gagnant, il pourrait aussi se qualifier dans ce groupe F. Alors la partie se joue à Kiev. À Kiev, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Cédric de Oliveira. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Cédric, c'est drôle de contexte quand même pour cet aller-retour entre ces deux équipes. À l'aller, on s'en souvient, ce match Lyon-Shakhtar, eh bien, elles avaient joué dans un stade de Décines décimé, à l'atmosphère si particulière du huis clos. Et au retour, eh bien, c'est une équipe qui joue un peu hors sol, cette équipe des mineurs du Donbass, qui est obligée d'être un peu itinérante dans son propre pays à cause des événements autour des frontières, on va dire.
Oui, on va faire un petit peu de géopolitique, effectivement, Annie. Le Shakhtar reçoit à Kiev, à 700 km de Donetsk, où là-bas, ben, on pense à tout, sauf à jouer au football. Donetsk, c'est la capitale du Donbass, la région la plus à l'est du pays, où un conflit armé a éclaté il y a 4 ans entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Le Shakhtar a donc dû migrer à Lviv, puis à Kharkov, où il jouait depuis un an et demi, mais il y a la suite d'un incident survenu en mer Noire il y a 2 semaines entre des navires ukrainiens et russes. Le gouvernement ukrainien a décidé d'appliquer la loi martiale. C'est donc impossible de jouer à Kharkov selon l'UEFA dans ces conditions. Résultat, donc, c'est à Kiev, au stade olympique, que se joue ce match. Le fief du Dynamo, le rival du Shakhtar. Alors, a priori, il n'y aura pas foule ce soir. Entre 20 000 et 30 000 personnes dans un stade qui peut en contenir plus du double. Ici, Annie, on attend plutôt la rencontre de demain face à Jablonec en Ligue Europa. Ambiance très particulière pour ce match de Ligue des Champions, d'autant qu'il fait être très froid. Il neige beaucoup depuis ce matin sans discontinuer.
Mais oui, difficile. difficile de remplir les tribunes. On a vu l'appel sur le site de l'équipe du Shakhtar qui en plus promet que c'est plus qu'une finale pour son équipe. Il y a effectivement encore des places en vente. En tout cas, quelle influence ça peut avoir, Dominique Sévrac, sur un match hier? On a beaucoup parlé de ce Maracana et on a vu une ambiance des grands soirs. Christophe Jousset et Hugo Moissonnier nous en faisaient profiter. Et malgré tout, quand le plus fort s'impose ou impose sa patte, ça peut avoir un effet limité.
Oui, parce que c'est pas l'ambiance qui met des buts. C'est comme les équipes. Après, c'est vrai que ça pendant quelques minutes, vous avez peut-être pas vos repères. Après, le stade de Kiev. Je pense que les joueurs y ont joué quand même assez régulièrement, en tout cas ceux de Donetsk. Donc voilà, c'est un match de Ligue des Champions. Les joueurs sont concentrés très vite. Ils oublient au bout de 10 minutes que c'est délocalisé, que c'est compliqué, que la vie dans le pays est compliquée. Vous savez, les footballeurs, ils aiment bien être dans leur bulle. Et c'est un cliché, mais c'est parfois vrai.
Oui, puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens dans ce 11. On y viendra.
Et j'ai presque envie de dire, le discours changera en fonction du résultat. Rappelez-vous, lors du match aller, donc match à huis clos, vous le disiez, à l'issue du match, les Lyonnais avaient expliqué effectivement que cela les avait perturbés de jouer dans un match, dans un stade à huis clos, etc. Aujourd'hui, alors il y aura peu de monde, comme le disait Cédric, en tout cas pas forcément beaucoup de monde. Après, si vous gagnez,
ça va faire huis clos encore.
Je vais pas dire que ça sera à huis clos, mais
c'est la moitié. Quand même.
C'est à moitié. Ouais, 30 000, mais bon, ça va quand même sonner relativement creux. Si les Lyonnais s'imposent, ou en tout cas font match, vous inquiétez pas, c'est Duron, il n'y a pas de souci.
Vous non plus, vous n'avez pas vu une ambiance marquer un but, Étienne Moati?
Non, moi je fais tout comme Dominique Sévrac de toute façon, donc c'est mon modèle. Plus sérieusement, de toute façon, un avantage pour Lyon, donc de jouer ce match à Kiev et pas de le jouer à Kharkov, c'est plus simple en matière de déplacement, et puis il y aura moins d'ambiance dans le stade, donc on va dire que les éléments sont plutôt favorables à Lyon. C'est d'ailleurs le souhait de Jean-Michel Aulas assez vite, donc qui a contacté l'UEFA pour essayer donc d'obtenir donc le déplacement de ce match. Il n'avait pas du tout envie d'aller, et on peut le comprendre en vue qu'il y avait la loi martiale et qu'elle est toujours en vigueur là-bas.
Mais oui, même si la mairie de Kharkov, lire un de nos confrères dans l'équipe aujourd'hui, a l'air de dire que bon, c'est pas non plus un théâtre de guerre pour l'instant.
Non, absolument. Aucun risque, le principe de précaution a été pris par l'UEFA, c'est peut-être plus simple comme ça, et c'est favorable à Lyon.
Mm-hmm. Et le fait de jouer sur de la neige, c'est pas forcément évident, je sais pas.
Il y a une bâche, hein, bien précisé, Cédric, il y a une bâche sur la pelouse.
Effectivement, ça a été bâché en début de journée.
Il est prévu que pendant le match, il tombe de la neige ou pas?
Ah bah là, je peux vous dire que la neige continue de tomber très abondamment et a priori, ça ne va pas s'arrêter.
Déjà ce matin, il a particulièrement neigé pour la Youth League, donc la Ligue des Champions des Jeunes, et le match entre le Shakhtar et l'Olympique Lyonnais. En plus, c'était un match sur une pelouse synthétique. Donc la neige plus pelouse synthétique, c'était l'horreur pour les joueurs.
Alors, Lyon nous a donc séduit dans cette phase éliminatoire, cette phase de groupe, dès le premier match à Manchester contre City. On s'en souvient, en les battant sur leur pelouse là-haut dans le nord de l'Angleterre. Et puis, cette équipe de Lyon a aligné des matchs nuls, alors de haute volée, avec beaucoup de suspense. Mais c'est vrai que l'OL est passé un peu à chaque fois près de la qualification, très près. Mais ce soir, c'est une dernière chance et Bruno Genesio en a bien conscience, l'entraîneur.
On est devant au classement avant le match. Rien n'a changé depuis le tirage au sort. On savait que City était l'équipe au-dessus dans ce groupe et qu'après, tout était très homogène. Et je ne suis pas surpris qu'on vienne ici jouer un match décisif pour la qualification.
Cédric, pour l'instant, l'OL, certes, c'est ce que disait Bruno Genesio, est devant le Shakhtar pour ce qui est du classement. Mais Bruno Genesio, comment il vous a paru hier soir? Plutôt optimiste, plutôt prudent, plutôt mesuré?
Il est plutôt optimiste, Bruno Genesio, un peu comme Bertrand Traoré, on l'a entendu au début d'émission. Ils ont un peu le même discours, il ne faut pas calculer, puisqu'on rappelle que Lyon n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Donc c'est un grand classique, en Coupe d'Europe, on a besoin d'un match nul. Mais alors comment on va gérer ce genre de situation face à une équipe qui, elle, doit l'emporter? Le problème, c'est qu'avec Lyon, on ne sait pas si cette équipe elle est assez mature pour allier les actes à la parole. On a l'impression de se répéter un petit peu, on l'a dit tout au long de cette campagne de Ligue des Champions, Lyon est capable de tout, du meilleur, on l'a vu deux fois face à Manchester City, comme du pire, à l'image de ces deux matchs nuls face à Hoffenheim, deux matchs que cette équipe aurait dû remporter. Lyon qui en plus a cultivé cette inconstance en s'inclinant la semaine dernière contre Rennes 2-0, assez incompréhensible d'ailleurs cette défaite, puisqu'on pensait que les Lyonnais étaient enfin lancés vers une dynamique plutôt positive. C'est un peu Lyon aux deux visages, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont montrer ce soir.
Eh oui, Eric, depuis le début de la saison, effectivement, Lyon nous surprend agréablement ou nous déçoit désagréablement.
Il y a eu des petits impairs, effectivement, qu'ils pourraient regretter si ce soir, effectivement, ils se trouvaient relégués à la troisième place. Par exemple, lors de la quatrième journée, Lyon mène 2-0 contre Hoffenheim. À 11 contre 10, quasiment toute la deuxième période, et finalement, ils se font rejoindre dans les tout derniers instants pour concéder un match nul, un petit peu quasiment le même scénario qu'au match aller. Hoffenheim, là, ils avaient le match en main, 3-2, ils se font rejoindre dans les derniers instants également. Et il faut rappeler que lors du match aller contre Donetsk, ils avaient ils menaient. Enfin, ils sont revenus au score, ils ont eu des balles de victoire, des grosses occasions, et ils n'ont pas su les concrétiser. Donc, comme ça, plus ça, bah, à l'arrivée, ça peut faire une catastrophe.
L'affaire devrait déjà être réglée, en fait.
Voilà. Bah oui, exactement.
Lyon
pas comme le Paris Saint-Germain, le groupe était quand même pas du même niveau.
Oui, et puis Paris a fait des erreurs, bon voilà, mais là, il devrait déjà être qualifié depuis longtemps, quoi. Même contre City, au dernier match.
Il y a 6 points qui ont été perdus.
C'est contre le plus gros de la poule qu'ils ont pris le plus de points, ils ont pris 4.
C'est absolument incroyable.
C'est incroyable. Et l'affaire devrait être réglée depuis longtemps. Donc c'est vraiment à l'image de ce Lyon qui est illisible.
Et justement, parce que ce Lyon est illisible, on se dit, nous, espérons qu'il ne vise pas que le match nul, Étienne.
Absolument. Il devrait déjà, évidemment, on vient de le dire, être qualifié. Quand vous prenez 4 points contre Manchester City, qui est peut-être une des 2-3 meilleures équipes d'Europe, ça paraît invraisemblable d'être encore donc, en danger donc, pour la qualification. Et si jamais cette qualification devait leur échapper, ce serait vraiment un coup terrible pour cette équipe de Lyon, mais c'est vrai qu'il y a la jeunesse qui a été évoquée de cette équipe, son manque de maturité, et on n'a pas de certitude de l'avoir capable de défendre pendant tout un match de Ligue des Champions et jouer un nul jusqu'au bout. Donc moi je pense en effet, je pense comme Genesio, qu'il vaut mieux jouer ce match, essayer de le gagner, parce que Lyon ne sait pas faire autre chose.
Voilà. Salim. C'est ça, Lyon ne sait pas tenir un résultat. Mm-hmm. Cela a été évoqué il y a quelques instants. 6 points perdus, 2 face à Hoffenheim lors du match aller, 2 face à Hoffenheim lors du match retour, 2 face à City, puisque Agüero qui marque très vite après le but de Maxwell Cornet, c'est pas normal, et notamment sur coup de pied arrêté, c'est une grosse faiblesse de Lyon depuis le début de la saison, sur coup de pied arrêté, des buts pris très régulièrement, donc coup de pied arrêté plus les dernières minutes, en fait Lyon va trembler jusqu'à la 95e minute ce soir.
Mm-hmm. Pour illustrer ce manque de maturité côté lyonnais, dans le 11 de départ annoncé par votre journal, l'équipe Étienne.
Donc le 11 de départ.
Voilà, il y a 3 joueurs seulement qui ont plus de 11 sélections, 11 matchs de Ligue des Champions dans les pattes, dans leur vécu, c'est pas beaucoup. Et là, du côté de Chak Tuor, eh bien, il y en a 6 à plus de 15 matchs de Ligue des Champions. Donc, ça peut faire la différence.
Encore plus que le Paris Saint-Germain, qui a été sauvé par ses stars. Là, Lyon devrait être tiré vers le haut par ses joueurs cadres, quoi. Et comme Fekir, par exemple, on ne sait pas dans quel état il est. Pardon, Depay. Il faut absolument que ces joueurs-là, expérimentés, des stars, des grands joueurs, aident les autres, parce que c'est pas Aouar ou Ndombele qui sont des jeunes joueurs de y arriver. Tant mieux si c'est eux qui marquent, tant mieux si c'est eux qui font la décision, mais voilà, il faut que l'OL soit sauvé, entre guillemets, par ses joueurs, par ses leaders.
Et justement, par ses leaders, Nabil Fekir est évidemment celui qui théoriquement brille ou doit briller et le plus. On a quelques doutes sur son état physique, voire mental, mais Bruno Genesio, hier, hein, quand vous l'avez écouté, Cédric de Oliveira, lui, il n'avait l'air d'avoir aucun doute sur son meilleur joueur.
On avait l'objectif de préparer Nabil pour le Shakhtar. Et je vais vous répondre par deux autres questions. Est-ce que si Léo Messi est dans une phase un peu moins bonne à Barcelone et qu'il y a un match décisif à jouer, Valverde va le mettre remplaçant? Est-ce que si Ronaldo est un petit peu moins bien, Allegri va le mettre remplaçant dans un match décisif? Voilà. Nabil s'est entraîné, s'est bien préparé. C'est le capitaine de l'équipe, c'est un joueur très important. Donc il est prêt, comme tous les autres joueurs, à faire un grand match et aller chercher cette qualification.
Cédric, Nabil Fekir, l'équipe le donne sur la feuille de match, donc il y sera ce soir. C'est évidemment un des atouts de cette équipe de Lyon.
Ah ben, c'est un des atouts de Lyon, mais quand il est en forme, mm-hmm. puisque c'est vrai
champion
que ces derniers temps, champion du monde, voilà, et peut-être qu'il a le contre-coup de ce titre de champion du monde, Nabil Fekir, comme beaucoup d'ailleurs de ses camarades qui ont été sacrés en Russie. Nabil Fekir, à part ce match aller face à Manchester City, où il avait été vraiment étincelant, il avait mis un but et une passe décisive, ben depuis, il peine quand même à tirer cette équipe vers le haut. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le meilleur choix pour débuter ce soir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus foot de remplaçant, hein, puisque Maxwell Cornet est blessé, le héros des deux matchs de Manchester City. Et puis, vous l'avez entendu, Bruno Genesio, il lui fait une confiance aveugle. Il a quand même comparé à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo. Donc, on verra Nabil Fekir ce soir au Stade Olympique. Maintenant, est-ce qu'il saura tirer Lyon vers le haut? Ça, c'est une autre affaire.
Eh oui. La chose, peut-être, Salim, c'est que c'est pas le seul qui peut ce soir éclairer le match du côté Lyon. Certes, il y a Fekir, mais on a aussi Depay, on a Aouar, qui est quand même un des jeunes espoirs et qui souvent est lui au rendez-vous. On a Ndombele aussi.
Le truc, Dominique en parlait il y a quelques instants. Aouar, Ndombele, normalement, sont des joueurs qui sont en progression, sont encore très jeunes.
Oui, mais font déjà, des jeunes comme le soulignait Eric.
Ils sont évidemment à un très haut niveau déjà. On l'a vu notamment face à Manchester City, le 2 partout. Ils avaient été étincelants au milieu de terrain. Malgré tout, c'est plutôt sur Depay que j'attends entre guillemets la responsabilité ce soir, comme le disait Dominique. Après, voilà, Ndombele et Aouar, au milieu de terrain, vont avoir un boulot monstre. S'ils réussissent à tenir comme ils l'ont fait face à City, ça ira à eux aussi de faire ce qu'il faut au milieu.
Eric, juste peut-être le problème, c'est que Ndombele et Aouar reviennent tout juste de blessures. Ils ne sont peut-être pas à leur top non plus.
Etienne, hein.
Oui, moi j'ai vu jouer beaucoup Nabil Fekir cette saison et je l'ai vu assez rarement, donc au niveau où on l'attend, Nabil Fekir. Mmh. Donc il y a une vraie interrogation sur sa présence. Maintenant pour Bruno Genesio, c'est très compliqué de ne pas titulariser Nabil Fekir dans un match comme ça.
Il était bon contre Manchester City.
Oui, mais ça c'était il y a un petit peu longtemps. Sur les dernières prestations de Nabil Fekir, évidemment, il ne devrait pas être titulaire. Maintenant, il y a un lien très fort entre Genesio et Nabil Fekir, son capitaine. Si Bruno Genesio est toujours l'entraîneur de Lyon, il le doit beaucoup aux joueurs et le leader des joueurs, c'est Nabil Fekir. Donc psychologiquement, c'était très compliqué. Mais il y a une vraie interrogation quand même autour de la présence de Nabil Fekir. C'était peut-être pas la meilleure solution. Maintenant, j'espère me tromper et qu'il va qualifier Lyon.
Dominique, alors plus les individualités ou finalement un groupe aussi ce soir qui doit se secouer et qui ne doit pas craquer en fin de match?
Ils savent faire les deux, hein. ils savent avoir du talent individuel. Moi, je trouve que Depay derrière l'armada parisienne, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1. Et puis ils ont parfois un super collectif, ils peuvent avoir des temps forts, magnifiques, jouer à un football franchement
impressionnant, ouais,
impressionnant.
Hein,
je me souviens de Lyon au Parc, c'est franchement avant qu'ils soient réduits à 10, c'était très très bien. Donc, oui, ils sont capables de tout. Mais attention, le Shakhtar, c'est aussi un habitué de la Ligue des Champions. C'est aussi une équipe qui qualifie également en huitième de finale. Pour nous, Français, c'est peut-être un club qu'on regarde moins. Les matchs sont pas forcément diffusés. Mais le Shakhtar, c'est un vrai club européen, quoi. C'est pas
un vrai
prétendant
et habitué en plus,
au dernier carré de la Ligue des Champions. Mais c'est un club spécialiste de sortir de la poule.
Justement, Cédric, quelle est la force que les Ukrainiens voient dans ce Shakhtar Donetsk? Où est-ce qu'ils la situent, eux? C'est une vraie armada brésilienne, hein, quand même des artistes balles au pied. Ils sont 9 dans l'effectif total, 4 dans le 11 de départ. Ils ont une jolie possession de balles.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de Brésiliens. Hein. Ça fait plusieurs années que ça dure maintenant au Shakhtar. Il y a effectivement, depuis que Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais, est arrivé, ce Shakhtar, il a une philosophie de jeu très offensive. D'ailleurs, Bruno Genesio a vanté ses mérites en conférence de presse. Il est assez admiratif de cette équipe. Il l'a même comparé au Barça. En tout cas, une équipe qui joue plutôt bien au ballon. Et comme l'a dit Dominique, le Shakhtar, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est la meilleure équipe de son pays sur les 10 dernières années, malgré le contexte dont on a parlé en début d'émission. Elle reste sur un doublé coupe championnat d'affilée. Elle est en tête cette saison de son championnat. Et puis, elle atteint au moins les 8e de finale une année sur deux de cette Ligue des Champions. L'an dernier, les Ukrainiens avaient été éliminés par l'AS Rome, à la différence de but, donc ils auraient pu passer en quart de finale, ils ne sont pas passés loin. Voilà, en tout cas, ce n'est pas n'importe qui, cette équipe du Shakhtar.
Eric ?
Oui, pour compléter, le Shakhtar Donetsk qui reste sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires, 2 nuls, mais en même temps, c'est une équipe capable de prendre 6-0 à City, là-bas à Manchester, et même 3-0 à domicile contre la même équipe. Alors ça, c'est City, mais bon, alors on va voir les matchs qu'ils ont fait contre City, ça a une valeur étalante.
Le match aller, ils avaient très très bien joué, hein, en contre notamment, ils étaient formidables. Bon, après Lyon, c'était un soir où Lyon défendait vraiment vraiment très très mal.
Justement, comme quoi on avait parlé de la même chose du match aller, parce que Junior Moraes avait été excellent lors du match aller, comme Maicon d'ailleurs, ce sont en fait les deux joueurs les plus dangereux au final de cette équipe du Shakhtar. Il l'avait été également face à Hoffenheim en marquant un but dans les toutes dernières secondes lors de la cinquième journée qui permet à Donetsk d'y croire encore à cette qualification. Ce sont les deux joueurs clés de cette équipe de Donetsk.
C'est ça aussi, hein, leur carotte à eux, c'est une qualification en huitième de finale, et c'est en ça qui peuvent être dangereux, Étienne.
Absolument. Lyon a peu de références quand même dans son histoire en Ligue des Champions, dans son histoire toute récente, évidemment.
Toute récente, oui.
Depuis 2012. Il n'y a pas eu grand-chose. C'est une équipe en reconstruction. On l'a dit, c'est une équipe assez jeune qui va jouer contre une équipe qui a l'habitude de ces matchs-là, qui joue à domicile et qui peut passer en huitième de finale. Donc franchement, la chance, ils l'ont laissé passer beaucoup donc sur les matchs précédents. On espère qu'ils ont quand même un dernier ticket à essayer de composter ce soir. Mais ce sera très compliqué.
Vous avez un pronostic Etienne,
c'est votre spécialité, les pronostics.
Eh ben, le pronostic va être teinté d'espoir. Donc, jouer une qualification à Lyonnaise avec un match nul de 2.
Et comme Etienne a toujours raison.
Alors, vous voyez aussi.
Il a dit 2-2, je le suis. Hein.
Vous le suivez?
Je suis Etienne.
Vous croyez en la qualification? 3-2 pour Lyon.
Bon. Match fou.
Du spectacle.
Cédric, je vous demande pas un pronostic, mais par contre, je vous donne rendez-vous dans Radio Foot. Tout à l'heure, on suivra la fin de la rencontre avec vous en direct.
Avec plaisir, Annie. Hein. À tout à l'heure.
Et n'oubliez pas vos moufles, vos moon boots et votre couverture de survie.
Voilà. Le
pantalon sous le pantalon.
Ah, obligatoire.
Dominique à l'habitude.
Grand classique.
Éric, pour terminer.
Juste pour évoquer la carotte pour chacune des deux équipes, le jeu en vaut la chandelle, puisqu'une qualif pour les huitièmes de finale vaudrait environ 9,5 millions d'euros, selon l'UEFA.
C'est une grosse carotte.
Ça vaut la peine.
Merci beaucoup Cédric et bon match, à tout à l'heure.
L'entrée des deux équipes sur la pelouse, le Maracana. Les balles de contre pour Mbappé qui démarre, qui prend le meilleur sur son défenseur qui entre dans la zone de réparation. Mbappé qui va pouvoir centrer et le but d'Edinson Cavani. Neymar qui fait de la frappe et qui marque. Il marque, le Brésilien Neymar, après avoir feinté. Le Brésilien double la mise à la 40e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Un centre en première intention. De nouveau la tête de Thiago Silva. La volée et le but. Le but pour l'étoile rouge de Belgrade qui réduit l'écart sur une superbe volée de Kovalić. Et largement décalé sur la gauche. On va la mettre dans la boîte. C'est Di Maria. La tête et le but. La tête et le but. Il me semble que c'est Marquinhos qui est venu placer sa tête au point de pénalty. Attention avec Neymar. Neymar qui sert Mbappé, peut-être pour le quatrième but. Le quatrième but. Tranquille, Neymar pour Mbappé. Côté droit de la surface de réparation à l'angle du rectangle des 6 mètres. 4-1 pour le Paris Saint-Germain qui vient conclure donc par un petit festival sa campagne européenne de Ligue des Champions.
Et oui, la joie des supporters parisiens hier soir, ceux qui avaient suivi leur équipe jusqu'à Belgrade, et le duo que vous avez sans doute, sûrement écouté hier sur RFI, Hugo Moissonnier et Christophe Jousset, qui se sont régalés et qui, m'ont-ils dit, ont apprécié beaucoup cette ambiance dans ce Maracana avec un K, bien sûr. Le PSG disputera donc le 8e de finale de la Ligue des Champions en attendant de savoir quel sera l'adversaire, n'est-ce pas, Dominique? Alors, ça sera lundi hein, qu'on le saura, tirage au sort. On va parler de l'équipe quand même, une équipe qui nous semble de plus en plus convaincante. Le PSG a donc gagné par 4-1, des beaux buts hein, inscrits notamment par chacun des membres du trio d'attaquants, Mbappé, Cavani, Neymar, et puis Marquis, c'est comme ça hein, qu'il l'appelle Thomas Marquinhos, le Brésilien. Un entraîneur donc super content au micro de Christophe Jousset.
Nous sommes qualifiés maintenant, nous avons gagné un groupe très très difficile, très très serré. Et je suis très fier parce que l'équipe a montré la qualité, c'était avec beaucoup de pression parce que pour nous c'était difficile. Après la Coupe du Monde, pas de phase de préparation. Et jouer dans cette façon maintenant, l'équipe a montré toujours la fin pour gagner dans la Ligue 1. Et oui, ça c'est une bonne occasion pour améliorer. Et ça c'est notre niveau maintenant. Et pour ça, je suis très content.
Premier de ce fameux groupe de la mort, Eric.
Et voilà, et c'est la 7e qualification d'affilée pour les 8e de finale pour le Paris Saint-Germain. Peut-être la plus belle, c'est à vous de nous le dire, messieurs. C'est vrai que le groupe était particulièrement corsé.
Et à qui vous l'attribuez, vous, cette victoire, Dominique? C'est-à-dire, est-ce que vous l'attribuez à un changement d'état d'esprit qu'on avait vu ou cru voir ou entrevoir face à Liverpool? Ou est-ce que c'est aussi des stars qui se comportent différemment? Évidemment, je pense à Neymar.
Moi, je dirais quand même d'abord à Thomas Tuchel qui a su créer un esprit justement. Après le premier match contre Liverpool le 18 septembre, on dit la MCN n'est pas au rendez-vous. Les trois sont très mauvais, même si Mbappé marque. Une grande équipe peut pas s'en sortir si ses grands joueurs passent complètement à côté. Après le match aller contre Naples, 2-2 au Parc des Princes, on dit non mais là il y a pas d'état d'esprit dans cette équipe. Personne ne défend pour les autres, personne
pas vraiment de leader,
pas de solidarité, voilà. Et tout ça, petit à petit, bah l'entraîneur me semble-t-il l'a changé. Alors peut-être qu'il y a une prise de conscience individuelle. Je vois que Neymar sort sur deux grands matchs contre Liverpool à domicile et hier à l'Étoile Rouge. Il pèse sur la rencontre. Voilà, comme on attend qu'un joueur comme Neymar pèse, c'est le joueur le plus important de l'équipe. C'est ce que fait Messi, c'est ce que fait Cristiano Ronaldo avec le Real ou la Juve désormais. Voilà. Et puis maintenant, il y a un état d'esprit dans cette équipe. Donc voilà, c'est un train qui arrive à l'heure. Le PSG en 8e de finale, mais c'est une grande performance quand même parce que le groupe était incroyablement dur. C'est quand même le Napoli de Carlo Ancelotti construit en partie par Sarri, qui reste sur le chemin, qui est versant Ligue Europa. Moi, je trouve que c'est pas un espoir, mais c'est une très grande performance.
Salim?
Oui, grande performance parce que au final, c'est la première fois que le PSG avait deux autres gros dans son groupe.
Alors, et même qu'il attendait la 6e journée pour se qualifier.
C'est ça. Le truc, c'est que, alors on va me dire, c'est qu'une phase de poule, c'est à partir des 8e que les grands clubs se révèlent, etc. Oui, mais vous aviez Liverpool, le finaliste de la dernière saison, vous avez une Napoli qui est attendue régulièrement en 8e, voire en quart. Donc, réussir à finir devant ces deux clubs-là, c'est très fort ce qu'a fait le PSG. Alors, on pourra évidemment évoquer le fait de battre l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que c'est un exploit de battre l'Étoile Rouge? J'en suis pas sûr, même pas du tout d'ailleurs. Mais malgré tout, réussir à finir devant ces deux clubs-là, la performance est déjà là.
Ils sont allés gagner là où personne n'a gagné,
de mon point de vue.
Etienne, un petit sourire narquois.
Non, pas narquois, mais ça me semble être plutôt un train qui arrive à l'heure et ça me paraît tout à fait logique que le Paris Saint-Germain accède au 8e de finale de Ligue des Champions. Dans ce groupe-là, qualifié de groupe de la mort, il faut quand même savoir que le Paris Saint-Germain, au niveau des moyens, ils sont bien supérieurs à ceux du Napoli, mais bien supérieur. C'est le Paris Saint-Germain qui vient chercher des joueurs à Naples et c'est pas le contraire. Quand on regarde les deux effectifs aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux. Donc évidemment, il y a une histoire pour le Napoli, mais d'un point de vue sportif et d'un point de vue économique, il est logique de mon point de vue que Paris soit devant Naples.
Mais à quoi l'attribuez-vous? Plutôt au groupe, plutôt aux stars, plutôt à Tuchel?
Il y a un petit peu de tout ça. Dominique a commencé à le dire, elle en a fait un bon résumé. Il y a eu le sursaut mental du match face à Liverpool et aujourd'hui il y a un accomplissement tactique et technique donc de cette équipe. C'est ça qui est aussi assez rassurant parce que il y avait l'énergie qui était nécessaire, qui n'existait pas sur les premiers matchs de Ligue des Champions dans le match face à Liverpool. Et puis hier, il y a de la maîtrise. Ce Paris Saint-Germain là donc a dominé, archi-dominé donc une équipe qui lui est inférieure, m'a réussi à le faire sur quasiment toute la durée du match. Donc c'est plutôt rassurant et maintenant on va voir ce qui se passe en 8e de finale parce que jusque sur les dernières saisons, c'était un petit peu leur limite.
Mais Étienne, vous savez mieux que quiconque la valeur financière, Manchester City Lyon, Genesio contre Guardiola, des matchs attendus comme ça, c'est pas forcément
écrit.
C'est bien et c'est une très bonne performance. Maintenant, ça n'est pas de mon point de vue un exploit de terminer donc devant le Napoli en phase de groupe.
Mais devant Liverpool,
en plus premier quoi.
Voilà. Je rappelle que le Paris Saint-Germain qui avait déjà un effectif XXL a recruté Neymar et Mbappé, donc son
record dans l'histoire du football en termes de transferts. Bon, donc voilà, ils sont à leur place.
Non, mais à la fin, vous avez raison, c'est comme Liverpool et le PSG qui se qualifient, c'est comme les deux plus gros budgets de la poule, c'est le finaliste de la dernière édition, c'est un prétendant au moins au dernier carré naturel. Donc voilà, c'est peut-être que l'argent fait à la fin
le bonheur.
Ça aide.
Ça aide évidemment. Après le Napoli, il y a Carlo Ancelotti qui pour moi était le plus grand entraîneur de cette poule et un Napoli qui est une équipe, qui est vraiment une équipe. Alors il y a pas des stars.
On va en parler tout à l'heure de Naples avec Matteo. Mais moi j'aurais voulu vous poser une question, Dominique.
Je vous en prie.
Justement, parce qu'on parle des stars et c'est vrai qu'on voit Neymar progresser énormément dans cet effectif. L'année dernière, on avait vu un peu l'ombre de Neymar, hein, puisqu'il s'était arrêté très vite au mois de février. Cette accolade qu'on a vue hier, très longue. Alors ça peut faire sourire au début. On se disait ah il la traite bien, il la chouchoute bien et les Brésiliens aiment ça. Mais est-ce qu'il y a pas comme un pacte entre ces deux hommes, l'un promettant à l'autre, entre Tuchel et Neymar, l'un disant à l'autre finalement, je vais te faire meilleur, quoi.
Ben, je sais pas s'il y a un pacte.
Il vient d'être 12e au Ballon d'Or, lui qui rêve de le gagner.
Ben oui, ce qui est pas un bon classement pour lui, puisque d'habitude il est quand même sur le podium, mais je sais pas s'il y a un pacte, mais il y a eu beaucoup de discussions en amont de la saison, avant que Tuchel arrive.
Ils avaient fait état, effectivement.
Il y a eu au moins deux rencontres, une à Paris et une à Londres. Voilà, il lui expliquait ce qu'il entendait faire, les changements tactiques, un rôle peut-être plus central. Bon, hier c'était plutôt un 4-4-2 où il joue sur le côté gauche, Neymar et Di Maria à droite. Mais en tout cas, il y a un feeling qui passe, qui n'était pas du tout le cas avec Unai Emery la dernière saison, la première de Neymar. On sait très bien que ces stars-là, c'est la calinothérapie qui marche. On a vu Zidane au Real Madrid, on a vu Messi, c'est quand même lui parfois qui choisit les entraîneurs comme Tata Martino. Donc on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir un conflit entre la star et l'entraîneur dans ce genre de club. Et donc avec Tuchel, alors qu'on croyait qu'il y aurait peut-être des que ça serait électrique parce que oui, Tuchel à Dortmund notamment avec Aubameyang. Et ben là, ça marche super bien et c'est l'une des clés de la réussite de la qualification huitième.
Étienne.
Oui, ce qui a porté aussi ce changement de Neymar, c'est finalement ce qui s'est passé pour lui lors de la Coupe du Monde. Et cette descente aux enfers a conduit Neymar sans doute à réfléchir, lui et son entourage, à se dire qu'aujourd'hui, c'est forcément l'heure du rebond. S'il ne rebondit pas aujourd'hui, Neymar, il disparaît donc des meilleurs joueurs du monde, etc. Donc aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience, même si quand on le voit parfois dans son attitude, on pourrait en douter. Mais quand même, sur le terrain, il y a eu cette prise de conscience. Et aujourd'hui, il sait qu'il doit gagner donc avec le Paris Saint-Germain s'il veut devenir le meilleur joueur du monde.
Elle est tardive, hein, c'est que sur les deux derniers matchs, je trouve, et une mi-temps, une première période à Naples, lorsque la deuxième, il sort de son match, il s'embrouille un peu avec l'arbitre, voilà, mais il fait une très grande première mi-temps à Naples. Mmh. Donc c'est sur deux matchs et demi, sur six, bon, il y a l'étoile rouge, le match aller, où il est extraordinaire, mais c'est moins sans ces matchs-là qu'on l'attend. Mmh.
Permettez-moi d'être taquin sur vos propos, Annie, concernant l'accolade entre Neymar et Tuchel.
Elle était au grand plan.
Je rappelle, à Belgrade, il y a au minimum 14 caméras. La règle en Ligue des Champions, c'est au minimum 14 caméras dans un stade de foot. Donc, il y avait beaucoup de caméras, donc des millions de téléspectateurs. Donc, je pense que les deux hommes savent qu'ils vont être vus. Alors, vous me parlez de calinothérapie à juste titre. Hein, ces joueurs-là en ont besoin encore plus, Neymar.
Les Brésiliens aiment bien.
Est-ce que après, il n'y a pas un peu de communication de la part des deux hommes pour montrer que tout va bien, on est bien, on est ensemble, etc.
Mais des câlins entre Tuchel et Neymar, il y en a eu très régulièrement depuis le début de la saison.
Oui, mais il n'y en a pas avec Cavani ou il n'y en a pas avec Mbappé.
Tuchel a choisi son camp, ça c'est très clair. Il a conscience d'avoir un leader. Il a un leader qui est un joueur de classe mondiale, peut-être aujourd'hui parmi les 2-3 meilleurs du monde. Et donc voilà, il s'appuie sur lui.
Eric.
Neymar plutôt efficace quand même cette saison, 16 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, bon, c'est pas mal. Et en Ligue des Champions, il en a 5 buts marqués. Il est juste derrière les deux leaders, Lewandowski et Messi. À noter que Moussa Maréga, le Malien, a également marqué 5 buts.
Non, mais il est venu pour ça, il est venu pour faire basculer des matchs importants au Paris Saint-Germain. C'est ça qui manquait ces dernières années, puisque Zlatan Ibrahimovic n'y arrivait pas. Donc le PSG a recruté, pour d'autres raisons aussi, marketing, tout ça, mais aussi parce que c'est un excellent footballeur. Mais voilà, donc à un moment donné, il fallait qu'il nous rende ou qu'il rende au club ce pourquoi il avait été recruté. Et je trouve que là, il est en train de le faire.
Il est là aussi pour progresser sur on the road, comme on dit, hein, sur la route, vers la finale, n'est-ce pas ? Alors, Thomas Tuchel, justement, quel est son rôle dans cette progression ? Est-ce qu'il a repris un peu les mentalités de zéro ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'entend pas, on veut disputer la finale. Et Thomas Tuchel, il l'a très bien dit hier soir, Christophe Jousset n'a pas manqué ce petit extrait.
On doit respecter que dans cette compétition, Ligue des Champions, c'est normalement nécessaire d'avoir cette expérience dans les quatre finales, dans les demi-finales, dans les finales. Et nous n'avons pas cette expérience avec le club. Et pour ça, on doit être humble. Nous ne sommes pas des favorites. C'est comme ça. Et on doit jouer match après match. Ça, c'est très, très important. Il n'y a aucune autre voie. Oui, tous les supporters et tout le monde peut rêver, mais pour nous, c'est pas le moment pour rêver. C'est contrôler notre performance, être concentré, être prêt pour améliorer chaque jour, pour être prêt dans les huitièmes de finale. Ce sont des matchs en top niveau. Est très très serré, c'est vraiment nécessaire de faire pas en passe.
Alors quand il parle de rêver, c'est assez marrant parce qu'en sortie de terrain, devant les micros notamment de RMC, on lui pose la question, vous rêvez plus grand, vous pouvez maintenant. Et lui, il répond, rêvez plus grand, on comprend, c'est pour ça très bien le français, il dit, c'est pas pour nous ce message, c'est pour les supporters.
c'est la devise un peu du club.
Oui, bien sûr, qui est écrite en haut du Parc des Princes. Ouais. Et tout. Mais c'était assez marrant. En tout cas, est-ce que Dominique, il a repris un peu les fondamentaux, on va dire, et peut-être en le disant quand il a été approché directement aux dirigeants?
En tout cas, lui, lors de sa première conférence de presse en Ligue des Champions, il dit « si on m'avait demandé de gagner la Ligue des Champions, je n'aurais pas signé mon contrat ». Donc il dit qu'il n'a pas d'objectif aussi haut. Alors on sait qu'il est dans un club où l'actionnaire est complètement obsédé, obnubilé par la quête de la Ligue des Champions. Même trop, je trouve.
Mais ils ont peut-être compris aussi.
Ils ont fait une erreur de communication initiale en arrivant en disant qu'ils voulaient la gagner dans les 5 ans. Alors je sais plus si c'était les 3 ans ou les 5 ans ou les 8 ans. Mais bon, en tout cas ça ne se dit pas. On dit pas ça parce qu'après il y a
sujet à moquerie.
C'est pas en décrétant qu'on y arrive. C'est d'abord en construisant une équipe, en recrutant bien. Et moi, ce que je trouve extraordinaire avec Tourelle, notamment, parce que c'est 5 mois, 4 mois que j'adore, c'est comment il a réussi à renverser la problématique du milieu de terrain. On commence la saison en disant qu'il manque un numéro 6, il manque un joueur pour remplacer Thiago Motta, qui était un très grand milieu de terrain, qui avait du vice, qui avait de l'expérience. Donc il voulait un grand milieu, il n'y arrive pas. Donc pas lui, son directeur sportif, Antero Henrique, ne trouve pas la Osora. Et là, on se dit, bon, il y a Rabiot et Verratti, on va devoir faire toute la saison, deux milieux, c'est compliqué. Et hier, Rabiot, comme à Naples, comme face à Liverpool, n'est pas titulaire. Il a mis Marquinhos, qu'il avait déjà installé au premier match contre Liverpool. Ça, c'était le 18 septembre et on est le 12 décembre et on voit la progression de Marquinhos à ce poste-là. Il est devenu essentiel, indispensable. Il fait un très grand match hier et il a complètement renversé la problématique du milieu de terrain avec les hommes qu'il avait et sans se plaindre. Moi, je trouve ça magnifique.
Oui, même pas sûr qu'il en recruterait un au mercato d'hiver, Étienne.
Bah, il en a un, comme vient de dire Dominique, un international qui n'est pas titulaire. Et il y en a un autre, donc un peu perdu pour la patrie, c'est Lassana Diarra, dont on ne sait même pas encore s'il est vraiment un joueur du Paris Saint-Germain. Mais là où il est un magicien, Thomas Tuchel, c'est dans la communication, mais dans la communication avec ses joueurs, parce que auparavant, Unai Emery, il a voulu faire une modification tactique toute petite. Au bout de quelques semaines à peine, tous les joueurs sont venus le voir en lui disant « Écoute, tu n'y comprends rien, on va jouer comme on jouait avant, en 4-3-3, c'est ça dont on a envie. » Et on voit aujourd'hui que Thomas Tuchel, il réussit à imposer des choses incroyables, des changements au milieu d'un match où Marquinhos passe du milieu de terrain en défense centrale et il décale Thiago Silva. En tout cas, il a les Brésiliens dans sa poche et on a le sentiment qu'il peut faire à peu près n'importe quoi, ils vont le suivre.
En tout cas, ça sera donc maintenant le destin, le hasard qui décidera. Ça serait qui votre adversaire rêvé pour un huitième de finale, Dominique?
Ça serait bien de retrouver Schalke.
Mais ce
serait l'Atlético.
Ce serait bien de retrouver l'Ajax.
Un seul, vous avez droit à un seul.
Un seul, alors moi j'aime bien l'Ajax.
L'Ajax, bon.
L'Atlético, allez, un beau match.
Ça serait le choc des cultures. Etienne.
Non, il vaut mieux éviter évidemment l'Atlético et je pense que Schalke, ce serait un bon tirage.
Il est méchant. Bon, Eric, vous avez un pronostic, non?
Non, pour l'instant, on connaît pas tous les adversaires possibles.
On connaît pas encore l'ordre.
Pour l'instant, on sait qu'il y aurait Tottenham aussi qui pourrait.
Tout à fait. À éviter.
En tout cas, dans ce groupe si compliqué, le PSG est donc devant Liverpool et les Reds ont hier éliminé Naples, le Napoli de Carlo Ancelotti, de Mister, hein, qu'on aime beaucoup ici à Paris, où il a laissé de bons souvenirs. Et justement, on va prendre la direction de l'Italie, car Naples n'a pas été la seule équipe éliminée hier soir. L'Inter Milan l'a imité, soit deux équipes italiennes sorties sur les quatre qualifiées automatiquement, on s'en souvient. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Matteo, racontez-nous ce que disent les tifosi, la presse, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils se sentent un peu comme quand la Suède a sorti l'Italie du mondial?
Oui, en effet, on a presque revécu une soirée suédoise. Maintenant, on l'utilise de cette façon. La chose suédoise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Dites-moi.
C'était dur, mais pas impossible. L'Italie rêvait de voir ces quatre clubs qualifiés qui auraient sûrement accéléré cette renaissance du calcio dont on parle en ce moment. Mais bon, le destin malheureusement a choisi différemment. Il n'y aura pas ce 4 sur 4 espéré, chose qu'on attend en Italie depuis 2005, dernière fois où tous les clubs italiens s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. J'ajoute une observation du journal La Repubblica qui ce matin écrit le calcio dans sa tentative de ressurgir à tous les niveaux a manqué et raté un examen important qui montre qu'il y a encore du boulot à faire pour concrétiser cette remontée vers le sommet du foot international.
Oui, donc c'est pas vraiment qu'une histoire de destin, Eric.
Juste dire que ça s'est joué à vraiment très très peu de choses, et pour l'Inter de Milan,
c'est ça.
Et pour Naples, l'Inter de Milan n'est pas qualifié au profit de Tottenham, le club anglais, qui passe grâce à son but marqué à Milan. Il y avait égalité parfaite, 1-0 victoire de Tottenham à Londres, 2-1 victoire des Milanais, ça joue là-dessus. Pour Naples, il y avait égalité parfaite, l'avérage particulier entre Liverpool et Naples, ça se joue à la moins bonne attaque. Donc, et en se rappelant qu'on regarde la dernière minute du match hier, Naples-Liverpool, Alisson Becker fait une parade de fou contre Milic. Donc,
Même si pour Naples et l'Inter, j'ai même envie de dire, c'est au-delà de ça. Par exemple, c'est PSG-Naples. Le fait que Di Maria marque à la 92-93e minute.
Sans doute Di Maria qui a éliminé Naples.
Naples qui ne va prendre qu'un seul point sur la pelouse de Belgrade. Alors vous allez me dire, c'est Belgrade qui avait fait contre Liverpool, mais c'est qu'un seul point. L'Inter hier ne doit jamais faire 1-1 face au PSV. Il y a une dernière occasion à la Milic face à Liverpool. Il y a une très grosse occasion à la dernière seconde qui passe au-dessus, on ne comprend pas comment. Donc l'Inter et Naples sont responsables eux-mêmes de leur élimination.
Et Liverpool a perdu 3 matchs à l'extérieur. C'est ça. À Naples, exactement. À Belgrade, à Paris.
Exactement.
Et Liverpool se qualifie.
C'est ça.
Non,
c'est
fou, quoi. Hier, avant les coups d'envoi, Naples était premier de ce groupe où le Paris Saint-Germain est maintenant
mais
premier.
Mais ça paraît être changé depuis le début. Les 6 journées, tout le monde
incroyable.
À part l'étoile rouge, tout le monde était premier.
Incroyable. En tout cas, cette équipe de Naples, qui est quand même toujours celle qui essaye d'être la concurrente de la Juventus, qu'est-ce qui leur a manqué à ce groupe? Écoutons d'abord le coach Mister Carlo Ancelotti, toujours très élégant.
Il nous a manqué peu de choses, mais on ne doit pas avoir de regrets et l'équipe n'a rien à se reprocher. On est passé tout proche, le groupe était dur et on a joué la qualification jusqu'à la fin. C'est dommage, mais nos efforts n'ont pas été récompensés. On sort d'une compétition très importante et on en commence une qui l'est un peu moins. On va faire notre maximum pour aller le plus loin possible.
Matteo, Mister Carlo Ancelotti, évidemment, je dirais, avec son élégance, peut-être tête baissée dans la Ligue Europa, est peut-être mieux traité que Spalletti pour l'Inter.
Bah, écoutez, c'est pas un hasard si la presse ce matin a écrit grazie lo stesso à l'égard de Naples, c'est-à-dire merci quand même, parce que c'est vraiment difficile en effet de s'en prendre à une équipe qui a dû lutter face à un adversaire très organisé et plein de qualité. Presque tous les médias italiens soulignent que Napoli sort de la compétition sans aucune honte, en ajoutant que la qualification, vous l'avez dit, ne s'est pas perdue hier soir en Finlande, mais plutôt dans le nul concédé à Belgrade, où c'est lui avec ce but extraordinaire de Di Maria à la toute dernière minute de jeu. Donc, vous voyez, Naples a fait tout, presque tout le possible qu'il pouvait faire. C'est une réalité qui peut arriver à ces niveaux. Et c'est pour ça que Carlo Ancelotti mise sur l'Europa League parce qu'il sait très bien que ce club a besoin de commencer à gagner quelque chose. Il faut commencer avec l'Europa League, très bien.
Oui. Par contre, l'Inter Milan est beaucoup moins bien traité parce que l'Inter a un peu aidé à sa perte.
Oui, en effet, si Napoli a été soulevé de toute responsabilité, la presse italienne a durement critiqué l'Inter qui n'a pas su s'imposer sur un adversaire, qui n'avait plus aucun objectif. Pour la grande majorité des journalistes, les Nerazzurri confirment encore une fois de souffrir de masochisme, mais surtout hier soir d'avoir cru qu'un nul pouvait suffire car sûr que le Barça aurait conservé son avantage. Une erreur terrible, énorme et qui a coûté très cher. Il y a quelques années, l'ancien président du club, Massimo Moratti, disait que l'Inter avait besoin d'un psychologue. Il n'avait pas tort, il n'avait pas tout à fait tort après le harakiri de hier soir, le suicide complet de Nerazzurri.
Ouais, il va falloir qu'il l'appelle ce psychologue. C'est vrai que quand même hier, il y avait c'était deux visages et Naples a été quand même... Alors peut-être on a vu ses limites aussi à Naples, Salim, c'est-à-dire bon, Mertens et Insigne sont ces deux flèches, mais en même temps pas toujours au bon niveau.
Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Naples c'est une belle équipe qui aime jouer, qui a des bons joueurs.
On a vu Koulibaly, une erreur, un but, mais
c'est ça, qui a des bons joueurs, des très bons joueurs, mais et c'est parfois peut-être ça qu'on a un petit peu reproché à Naples. Vous savez, vous n'avez pas ce joueur absolu. Nous, on a évoqué Neymar au PSG, Mohamed Salah à Liverpool. C'est peut-être ça, et c'est sans doute ça là d'ailleurs qui a manqué au Napoli et à l'Inter. Alors, vous avez Icardi évidemment, mais Icardi, si parfois il est un tout petit peu en dessous, même s'il a marqué hier, ben il n'y a pas forcément de joueur à côté pour réussir à le remplacer. C'est ce qui a manqué et à Naples et à l'Inter.
Ils n'ont pas de joueur dans les 30 du Ballon d'Or.
Totalement. Le réalisme, c'est un paradoxe. Normalement, les équipes italiennes en ont énormément. Naples en a manqué cruellement. Moi, je pense qu'ils ont raté leur qualification à Belgrade parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Et on se rend compte quand même que cette équipe de Belgrade, même si elle a quelques sursauts, c'est une équipe assez faible pour la Ligue des Champions. Donc, ils ont perdu la qualification là-bas. Maintenant, il leur manque, je pense, le grand attaquant, peut-être comme à Marseille, pour passer un cap. Celui, ils l'ont eu par période, mais comme les moyens financiers de Naples ne sont pas considérables, ils finissent toujours par le perdre.
Dominique, sur l'élimination de ces deux clubs italiens, parce que c'est vrai qu'hier soir, Matteo le disait, les clubs italiens se disaient on va faire un 4 sur 4, une bonne note, et puis finalement c'est la moyenne.
Ouais, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais bien que la France en fasse autant. Bon, c'est vrai que quand on voit
certains... On n'a pas 4 clubs qualifiés.
Quand on voit certains...
Non, mais c'est une bonne observation, on n'a pas 4 clubs qualifiés, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les Italiens sont bien plus forts donc dans les instances dirigeantes pour obtenir donc 4 clubs comme les Anglais, les Allemands et les Espagnols, alors que leurs résultats sur le terrain ne le justifient pas.
Après, je rappelle que le Napoli de Sarri, lui aussi, a été éliminé l'année dernière dans un groupe où il y avait peut-être Donetsk, je crois. Il me semble, il faudrait qu'on vérifie. Mais en tout cas, ils avaient été reversés en Ligue Europa.
Ils avaient été éliminés dès les huitièmes de finale.
Voilà. Donc ce n'est pas propre à Carlo Ancelotti qui a perdu Jorginho qui est parti pour Chelsea. Donc voilà, l'équipe elle est ce qu'elle est. Comme l'a dit Etienne, Cavani, Higuain, ils sont plus là. Hein. Donc c'est compliqué. Après, quand je vois certains deuxièmes, certains noms, j'aurais voulu que Napoli soit dans un autre groupe pour qu'on les voit en huitième de finale, parce que j'ai rien contre Schalke ou...
Si, tu les aimes pas, tu m'as dit ça.
Je préfère en tout cas Napoli, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont trois clubs qui peuvent être en huitième de finale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui.
En tout cas, Matteo le disait, il y a une volonté de la part de Carlo Ancelotti de jouer cette Europa League. Vous avez en tout cas des beaux clubs qui ont été reversés. Naples, l'Inter, Valence également qui va jouer cette Europa League. Benfica, alors c'est un nom, même si Benfica est en dessous aujourd'hui.
Déjà Arsenal.
Et vous avez d'autres clubs qui sont Chelsea, Arsenal et d'autres gros noms. Ça peut donner des 16e de finale et à partir de février, une Europa League très sympa aussi.
Un peu ronflant. Eric ?
Non, mais juste, effectivement, je suivais la soirée hier, et notamment ce Barcelone-Tottenham.
C'est assez professionnel, c'est bien.
Ouais, non.
Moi, j'aurais préféré qu'on reste ensemble, Eric, mais si vous préférez le football.
Non, mais d'un œil seulement. Ah, voilà. Pas, je faisais d'autres choses en même temps, mais je voyais l'évolution du score et je voyais la composition de Barcelone qui affrontait donc Tottenham, partout à l'arrivée. Tottenham qui égalise en fin de match et c'est Barcelone quand même a aligné une équipe bis. Plus ou moins, Messi était sur le banc, Suarez était sur le banc. Donc en même temps, l'Inter peut peut-être se dire, bah ouais, mais Barcelone qui était déjà qualifié sur des
Oui, mais c'est le jeu, c'est le jeu des six matchs.
Mais après, oui, l'Inter peut se sentir floué. Vous avez raison.
Ouais,
c'est encore une fois, c'est la faute de l'Inter. Hier, s'ils gagnent, on n'en parle pas de cela. Mais après, le Barça a d'autres choses à jouer, le championnat, etc. Donc il y a pas de souci là-dessus, personne ne peut le reprocher.
Si on peut voir de temps en temps Ousmane Dembélé quand il se réveille, ça peut être sympa aussi. Ouais,
et quand il se réveille, c'est pas mal.
Matteo, bonne chance alors maintenant à Naples et à l'Inter en championnat, n'est-ce pas?
Oui, oui, j'espère qu'ils feront certainement mieux.
Ouais.
C'est bien qu'on n'aura pas l'idée.
Oui, il est déprimé.
Il n'y a pas de morale.
On voulait dire qu'on n'aura pas l'idée. Il y a peut-être aussi l'AC Milan, il ne faut pas l'oublier, peut-être.
Eh oui, peut-être. On sait jamais. Oui, on verra ça demain. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été avec nous. Merci, messieurs. Merci beaucoup.
Merci.
Merci aussi à Laurent Salerno, qui était aujourd'hui à la réalisation. Il y avait Pierre Guérin, qui m'a aidé à préparer l'émission. À tout à l'heure.